C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut. Oui, et aujourd'hui, je crois qu'on va parler un peu street art et c'est plutôt plaisant. Et nous, à Lyon, on a pas mal.
Oui, c'est vrai qu'on on a du street art à Lyon, on en a plein, surtout toi qui habites les pentes de la Croix-Rousse, hein. Là c'est oui. Quand même la Mecque. Aujourd'hui on va vous parler de Banksy, hein. Ça n'aura pas pu vous échapper ce week-end. Il s'est passé des choses assez folles dans une salle de vente américaine. Peut-être Adjane, tu peux expliquer pour ceux qui n'étaient pas sur cette planète ce week-end.
La maison de vente Sotheby's. où effectivement des œuvres de Banksy étaient vendues, surtout une œuvre de Banksy était vendue aux enchères. C'était la fameuse œuvre de la petite fille et le ballon en forme de cœur. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou, puisque en bas du cadre de l'œuvre, Banksy avait installé auparavant une petite déchiqueteuse. Et au moment où la vente a été scellée, la déchiqueteuse s'est mise en route. Et l'œuvre est tout simplement descendue dans le tableau en ressortant sous le tableau en lamelles. Et en laissant apparaître au final, à la fin, dans le cadre, plus que le petit ballon avec le cœur et la petite fille était déchirée en dessous.
Oui, ahurissant. Hein. Si vous n'avez pas vu ces images-là, il faut voir. Il y a des vidéos qui circulent en ligne. Imaginez, vous êtes au cœur d'une salle de vente à Sotheby's. Il n'y a que des gens prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour s'acheter les œuvres d'un street artiste. Et puis, d'un coup, alors que le marteau vient de résonner trois fois pour dire que la vente est scellée, et ben bim, effectivement, on voit ce petit mécanisme.
Oui, avec une petite alarme aussi apparemment qui a fait que tout le monde a tourné la tête vers le tableau en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, pour voir la vidéo de l'événement, il y a tout simplement l'Instagram de Banksy.
Oui, voilà. Alors ça, c'est ce qui va nous intéresser effectivement, c'est qu'on bat... Comme vous, hein, on est tombé sur ces contenus-là. Et puis, forcément, on a un angle, nous, social media, qui nous dit « Tiens, mais si on allait voir... » Et puis, parce que Banksy aussi, c'est quand même l'enfant des réseaux sociaux, on peut le dire. L'enfant ou le papa, d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il était là avant les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il en a un usage qui est...
C'est ça. En tout cas, il sait s'en servir.
Il sait absolument s'en servir. Allez, juste deux mots là-dessus. Effectivement, l'Insta de Banksy, c'est 4 millions de followers et zéro following. Ça, c'est quand même assez... c'est quand même assez dans la veine Banksy, hein, c'est-à-dire...
Oui.
Voilà. Et puis, une signature qui, moi, m'a fait sourire, qui est « Not on Facebook, not on Twitter ». Ça, c'est ce que vous trouvez dans la bio de Banksy sur Instagram. Banksy, il est sur Insta et sur YouTube. Sur Facebook, c'est que du faux Banksy et sur Twitter aussi.
C'est des pages fans.
C'est des pages fans, exactement. Et donc, Banksy, sur les réseaux sociaux, effectivement, a mis en scène, y compris comment on appellerait ça, d'ailleurs ?
C'est finalement... ce canular. Moi, je vais appeler ça un canular d'autodestruction d'une de ses œuvres.
Oui, voilà. On est carrément dans la veine du chant qui casse l'urinoir. C'est tout à fait dans cette veine-là. Et donc, il l'a mis en scène sur les réseaux sociaux. En tout cas, il en a rendu compte et il a fait en sorte que le monde entier puisse profiter de ce canular-là avec un post qui est sorti qui disait...
Qui disait tout simplement... qui citait Picasso pour dire « Quel plaisir de détruire pour recommencer ».
Voilà, donc on voit effectivement sur cette photo-là l'œuvre passer à la déchiqueteuse en pleine salle de vente.
Et il fait quand même plus de 7 millions de vues avec la vidéo Banksy, hein, sur Instagram.
7 millions de vues.
7 millions, ouais, plus que ça. Ce nombre de followers.
Et puis après, dans la foulée, donc, il a laissé, évidemment, parce qu'on a quand même affaire à un fin stratège avec Banksy, donc il a laissé ce contenu-là vraiment circuler pour revenir avec une deuxième couche en cours de week-end, je crois que c'était hier, dimanche, avec une vidéo sur son YouTube dans laquelle il explique, qui est une vidéo très très brève, dans laquelle il explique qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que cette œuvre se soit déchirée, et qu'effectivement, il avait installé au cœur du tableau, au cœur du cadre, une déchiqueteuse quelques années à l'avance en espérant qu'un jour, enfin dans le cas où un jour cette œuvre serait vendue aux enchères.
La vidéo sur Instagram aussi, hein, on voit au début de vidéo, on le voit installer la déchiqueteuse dans le cadre. Alors après, il y a beaucoup de questions autour de cet acte-là, hein, parce que les personnes qui étaient présentes à l'intérieur de la maison de vente et qui sont dans l'art depuis un petit moment, déjà, n'ont pas forcément trop apprécié ce qui se passait. parce que c'est un peu quand même une satire aussi de, bah, tout simplement du marché de l'art et de la valeur d'une œuvre. Et on peut se poser des questions sur est-ce que la maison de vente était au courant ? Parce que normalement...
Ah, eux disent que non. Hein. Moi,
eux disent que non, ouais, j'ai vu aussi. Mais parce que normalement, certains disent qu'une œuvre doit être vérifiée avant d'être vendue. Donc elle est sortie de son cadre, elle est vérifiée, voir s'il y a une signature, voir si c'est un bon état, etc. Et le fait que là, personne n'ait rien vu, soi-disant, de la déchiqueteuse, c'est un petit peu étonnant pour certains.
Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Et ça fait aussi parler... Moi, j'aimerais bien qu'on profite de cette occasion pour parler de la marque Banksy et de son usage sur les réseaux sociaux. Et tu vois, tu parlais un peu de mytho. Tu avais déjà des doutes quant à l'authenticité de cet acte artistique. Ben, effectivement, il y a un peu de ça quand même dans l'ADN de la marque Banksy aussi. Quelque chose entre la farce, le mytho et la vraie démarche artistico-politique, et c'est vraiment ça qui définit Banksy. Moi, ce que je note sur cette marque Banksy, c'est que c'est une marque extrêmement forte, et je parle volontairement de marque parce que Banksy lui-même l'a travaillé comme une marque, sa démarche artistique.
Le fait de rester anonyme de toute manière déjà, et le fait que Banksy est une marque et pas vraiment un individu en soi.
Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas Banksy, c'est qu'effectivement, on est face à un artiste qui a souhaité garder l'anonymat, et ça fait des années qu'il est actif.
Il y a des grosses rumeurs après.
Oui, il y a des rumeurs, mais c'est petite.
Non, mais oui. En tout cas,
lui n'a jamais fait l'interview. On n'a jamais vu son visage. Donc, la marque Banksy, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte aussi parce qu'elle a des actions marketing qui sont puissantes, comme celle de ce week-end, par exemple. Et puis, elle a un storytelling qui est extrêmement consistant sur la durée. Et ça, c'est vraiment la force de la marque Banksy. Pertinence et puis détermination au cœur de sa stratégie. Et on voit par exemple que la construction de ce storytelling de marque, il passe par quelque chose de très... Ça, je trouve, c'est un enseignement peut-être pour toutes les marques, c'est qu'il passe par quelque chose de très authentique dans son histoire. Et puis, c'est surtout la constance et la cohérence sans relâche de cette plateforme de marque qui en fait la force.
Et puis Banksy, c'est un habitué, en tout cas, où les personnes qui s'occupent de Banksy, ce sont des habitués des coups de com'. Et d'enflammer un peu les réseaux sociaux. On peut se souvenir qu'il avait par exemple vendu des œuvres à lui signées 60 euros devant Central Park à New York en se filmant et en expliquant justement après sur les réseaux sociaux « Regardez ce que j'ai fait, une œuvre de moi ça coûte 60 euros, ça coûte pas des milliers et des milliers comme certains veulent vous faire croire. » Ou encore, il était rentré dans le musée le Tate Moderne et avait cloué une de ses peintures sur un mur au milieu du musée. Encore une fois, pour mélanger un peu l'art moderne et le street art. Donc, encore un événement qu'il avait filmé et qu'il avait montré sur les réseaux sociaux.
Moi, je crois qu'il y a deux choses qui sont dans la plateforme de marque, de la marque Banksy. Je vois deux éléments forts de son ADN, deux valeurs, c'est le mystère et l'usurpation. J'ai l'impression que c'est quand même une trame consistante sur son travail.
Ah oui, c'est clair.
Et on peut parler du marketing du mystère. C'est un truc qui a été assez travaillé, assez étudié. Il y a même des campagnes qui ont été faites. BMW a fait une campagne quelques temps sur assez mystérieux sur ces nouveaux modèles. C'est un mécanisme assez puissant parce que ça fait appel à tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, etc. Donc c'est lié aussi étroitement au phénomène de la rareté, et donc c'est le storytelling par excellence, c'est-à-dire dès lors que c'est mystérieux, dès lors que c'est rare aussi, là j'ai une vraie source de storytelling.
Et c'est éphémère, comme c'est sur des murs en général en extérieur. C'est de l'art qui peut être recouvert, abîmé par le temps, c'est éphémère.
Et puis je trouve qu'il y a une fascination supplémentaire sur cet aspect mystérieux, c'est celui d'être en 2018, au cœur d'une société qui est 100% sociale, et puis d'arriver à garder cet anonymat comme ça, de façon forte. Ça nécessite, pareil que ceux qui, à un moment donné, l'ont approché de loin ou de près, ont eu affaire à lui, que on était quasiment dans des scénarios d'agents secrets.
Ouais. Après, on sait qu'il a des équipes qui travaillent autour de lui, qui l'aident à mettre tout ça en place. Donc, il y a certaines personnes qui le connaissent forcément.
Oui, j'imagine que c'est ses parents, peut-être.
Peut-être. Mais ses parents ne savent peut-être pas que leur fils
qui
est Banksy.
Lui-même.
Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est encore peut-être quelque chose qu'il arrive à séparer. Mais il y a des équipes qui travaillent avec lui sur ses œuvres et tout ça. Et justement, sur ce genre de coup, comme là, à la maison de vente.
Bah, c'est une certitude qu'il n'a pas fait tout seul.
Voilà. Donc, du coup, il y en a qui savent qui il est.
Il y a même des rumeurs qui disent, qui sous-entendraient que ça serait un groupement d'artistes, hein, que c'est difficile d'imaginer qu'une seule personne puisse faire ça.
Oui, bien sûr, c'est clair.
Donc c'est pour ça que moi, je reviens vraiment au phénomène de la marque, parce que je crois que Banksy, c'est avant tout une marque.
C'est ça, c'est une marque et qui sait parfaitement se jouer des réseaux sociaux. D'ailleurs, déjà dès cette année, hein, je voulais rappeler un troisième petit exemple, là, où dès cette année, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, il avait laissé pas mal d'œuvres sur le sujet à Paris et dans les rues de Paris. Et pareil, ça avait quand même fait un gros buzz sur les réseaux sociaux, surtout que là où il est fort, parce qu'à chaque fois, comme tu dis, il laisse le mystère un petit peu planer. Il laisse 24-48 heures où la toile commence à s'enflammer un peu, à prendre des photos. Est-ce que ce serait pas Banksy ? Et lui, il poste une petite vidéo, des photos des œuvres trois jours plus tard pour confirmer que c'est lui qui l'a fait.
Ouais, c'est très orchestré. Mais je dirais que dans la plateforme de la marque Banksy, il y a aussi un autre sujet, c'est l'usurpation. J'en ai parlé. C'est un truc que lui, il a travaillé vraiment à de nombreuses reprises. Et puis, tu en as parlé quand, par exemple, il s'installe sur Times Square. Il installe un comédien, un acteur sur Times Square et lui dit « Vas-y, tu vends ces pièces-là. Elles coûtent 60 $ pièce. Et puis, du coup, elles sont vendues à des passants qui peuvent acheter un Banksy pour 60 $ quand on sait que ça vaut des centaines de...
Il y en a qui essaient de négocier, qui pensent que c'est pas vraiment sa signature, que c'est des faux. Donc...
Et alors, l'usurpation, là, ce qu'il y a de drôle, bah, c'est vraiment au cœur de l'ADN. Déjà, rien que le nom, hein, Banksy, ça fait quand même totalement penser au monde de la finance, de la spéculation, de la banque. Donc, le nom n'a pas été trouvé au hasard. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, il y a toujours la suspicion de dire l'usurpation, jusqu'où elle va. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, comme tu l'as dit, est-ce que ce qui s'est passé vendredi ou ce week-end sur la vente, est-ce que c'était pas une mise en scène? Est-ce que quand ils vendent des pièces à 60 $ au cœur de est-ce qu'il y a vraiment des gens qui les ont achetées, ou alors est-ce qu'il a juste fait une petite vidéo de 10 secondes pour la mettre sur les réseaux sociaux?
C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser sur ce qui s'est passé ce week-end. On peut aussi se dire, est-ce que c'est un super coup de marketing où au final son œuvre elle va encore valoir plus cher vu ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est une véritable satire du marché de l'art et de la valeur de l'art? Pareil, quand il vend à 60 € ses œuvres. Et c'est aussi un des premiers artistes où il y a beaucoup d'œuvres de lui qui se sont vendues sans sa signature, sans qu'il y ait de signature en bas du tableau. Donc, c'est un peu grâce à lui aussi, enfin à ses œuvres à lui, qu'est apparue une nouvelle vente dans l'art des tableaux non signés.
Oui, et puis il y a un truc intéressant, c'est que le vrai Banksy versus le faux Banksy, lui, il en joue aussi volontiers. Il laisse totalement planer le doute sur oui, c'est bel et bien moi, oui, non, c'est pas moi. Parfois, il revendique un certain nombre de choses, comme tu l'as dit, son passage à Paris, ou quand il fait des grosses sessions comme ça, il le revendique. Et parfois, on ne sait pas exactement, alors qu'on sait que d'autres artistes se battent contre pour maintenir leur copyright.
Oui, c'est ça, pour dire non, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Non, à chaque fois qu'on leur montre une photo, bien dire non, ça c'est pas mon œuvre, ça c'est pas moi. Lui, il laisse un peu effectivement.
Exactement, il y a quelques temps de ça, d'ailleurs, il y avait un artiste qui a fait une. Peut-être que vous l'avez aperçu, ce visuel qui s'appelle Nobody Loves Me, où on voit un gamin avec au-dessus des petites bulles, un gamin en train de pleurer avec au-dessus un petit cœur avec marqué 0 à côté, un petit like avec marqué 0, enfin toutes les icônes
0 commentaire, 0 like, 0 follower.
Exactement, et en fait, c'est une belle imitation du style Banksy. C'est pas Banksy qui l'a fait, mais lui il a joué avec, il l'a publié sur les réseaux en disant hashtag not Banksy, mais il a laissé monter un buzz volontairement.
Et puis il l'a publié aussi sur ses propres réseaux.
Exactement.
Donc c'est quelque part, il se l'est réapproprié un petit peu.
Donc,
mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la réappropriation de l'art, de dire que l'art appartient, si sa démarche va dans ce sens-là, que c'était pas juste du marketing. C'est un peu histoire de dire que l'art appartient à tout le monde et pas forcément à ceux qui ont l'argent pour l'acheter. Et c'est aussi la base du street art de faire des œuvres dans la rue que tout le monde peut voir.
Ouais, tu vois, j'ai lu beaucoup de choses ce week-end sur Banksy parce que forcément, quand le mec fait un coup comme ça, t'as envie de creuser, d'en apprendre plus, de savoir si on en sait davantage. Et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est... Autant jusque je trouvais que jusqu'à présent c'est un artiste qui avait une aura folle et les gens avaient vraiment une bienveillance, et là on sent une espèce de ras-le-bol qui arrive, qui commence à arriver, et que les gens en ont un peu marre de ces coups fumeux. Et j'ai l'impression, tu vois, si on reprend la logique de marque, j'ai presque l'impression que la marque Banksy, elle est en difficulté en ce moment parce que son ADN de marque, les gens commencent à s'en lasser.
Peut-être. Alors j'ai vu dans les réactions à la sortie de la fameuse salle de vente là que les personnes qui étaient à l'intérieur effectivement étaient pas content du tout, même.
Ouais, eux, ils se sont fait prendre pour des couillons.
Voilà, et j'avais lu un article qui parlait de ça, justement, qui mettait un peu en opposition les anciens marchands d'art, en fait, et les nouvelles générations d'artistes. Et c'est surtout cette génération-là d'anciens marchands d'art qu'on a marre d'artistes comme ça, comme Banksy, qui se fout un petit peu d'eux. Et pour eux, pensent en tout cas qu'ils sont nécessaires à la... même à la création artistique, puisqu'ils pensent que c'est grâce à leur argent aussi et au fait qu'ils achètent des œuvres que ces artistes-là peuvent vivre et ainsi de suite.
Oui, en fait, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la condescendance qui n'était pas du tout dans la marque Banksy jusqu'à présent, puis qui commence malheureusement à le devenir. Alors, est-ce que c'est la marque est restée forte sur son ADN ou est-ce que c'est la société qui évolue et qui a une lecture maintenant un petit peu différente sur ce qu'il propose ? Mais là, tu parles des gens du milieu de l'art, mais je crois aussi chez les gens de tous les jours. Et par exemple, quand Banksy était passé sur Paris et avait mis une douzaine d'œuvres dans Paris, il y avait pas mal de gens quand même pour se foutre de sa gueule et dire « Ouais, ça va, merci les bons sens, merci les trucs, bisounours, etc. Ça va, on a compris ton message, est un peu gnangnan. » Et j'ai même...
Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment la marque Banksy qui a changé ou est-ce que c'est notre société et la perception des gens qui a changé sur lui ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été quand même un petit peu condescendant. Une de ses premières œuvres, d'ailleurs, La petite fille et le ballon, c'est quand même une œuvre très gnangnan. C'est quand même une œuvre, justement, c'est même l'ironie de l'œuvre. C'est que c'est vraiment une petite fille qui tient un ballon, quoi, avec un petit cœur. C'est, ouais. Tu peux pas faire plus gnangnan que ça et plus bisounours, quoi.
Moi, j'ai lu des choses très dures sur la marque Banksy et notamment quelqu'un qui posait un certain nombre d'articles qui posaient la question de savoir si c'était devenu la marque de l'establishment, hein, alors que c'est quand même un paradoxe et je pense que ça peut être violent pour quelqu'un qui vient de la rue, hein, qui a posé dans la rue. Et pourquoi il parlait notamment, et c'est vrai qu'on peut se poser cette question là quand on voit quand Banksy passe dans Paris, c'est Anne Hidalgo qui va retweeter deux, trois œuvres en disant « Waouh, vraiment génial d'avoir un artiste aussi fort qui vient chez nous. » Et c'est vrai que j'imagine que pour tu vois, maintenir ta marque, je trouve que là, dans un phénomène de marque, c'est vachement intéressant. C'est comment une marque qui était une marque de niche très pointarde devient une marque mainstream. Et,
Mais alors, justement, à la suite, c'est assez intéressant, je trouve, à la suite de son passage à Paris. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la perception que les différents, comme tu dis, un peu point de vue politique ont sur son œuvre. C'est qu'il a quand même, je ne sais pas si tu as vu les œuvres qu'il a laissées dans Paris, il y en a quand même une où au milieu de l'œuvre, il y a une croix gammée qui laisse entendre que la France, dans sa politique d'immigration et des réfugiés, c'est à peu près l'Allemagne nazie. Donc, ce qui est quand même assez violent et assez un establishment. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la bien-pensance tout craché, quoi. Donc, en même temps, tu as des politiques comme Anne Hidalgo et comme d'autres qui vont tout de suite se dépêcher de retweeter les œuvres et parce qu'il vaut mieux avoir Banksy dans sa poche qu'être contre Banksy, en réaction en se disant, de toute manière, il est populaire. Et en même temps, tu as ceux qui sont complètement aussi favorables à cette politique-là contre les réfugiés, qui eux aussi vont dire Banksy, c'est un artiste bobo de gauche avec des idées de bien-pensance sur le monde. Donc tu as ces deux visions qui essayent soit de se réapproprier, soit de rejeter Banksy. Mais effectivement, tu n'as plus juste la vision de « c'est un poil à gratter ».
Oui, ben moi je me demande, on va conclure, hein, mais je m'autorise à conclure.
On peut parler longtemps de Banksy.
J'ai l'impression que Banksy, c'est la nouvelle. Ça me fait penser à la marque Suprême. Et quand maintenant tu vois certaines choses de Banksy, tu te demandes si c'est pas la trousse Suprême qui est en vente à l'Intermarché du coin.
Ouais,
ça je m'arrête là.
Ça peut être un petit peu ça. Moi, je vais juste rajouter un tout petit truc avant qu'on ferme. Je voulais dire que Banksy, il n'est pas insensible non plus aux réseaux sociaux et qu'il comprend très bien son fonctionnement. Il sait que c'est là que ses œuvres vont être le plus largement diffusées. Et il avait notamment peint un petit chaton en Palestine sur un grand mur. Hein. Et il avait expliqué en publiant la photo que les gens préféraient sur Internet voir des chatons. Donc du coup, c'est quand même qu'il se tient bien au courant de ce qui se passe aussi
c'est
sur
mignon,
Internet.
C'est mignon. Voilà, Banksy, aujourd'hui, on espère que ça vous a intéressé. On est preneurs aussi de vos idées là-dessus, qu'on échange. Hein. Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux, sur...
@supernatif, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Et puis, n'hésitez vraiment pas à aller laisser un commentaire. Ça nous intéresse, votre avis sur ce podcast, sur Apple Podcast. Mais on est aussi présent sur Spotify, sur Deezer, Google Podcast aussi.
À peu près partout.
À peu près partout au final, oui. Et on vous souhaite surtout un bon début de semaine, un bon lundi. Et on
vous dit à demain. Salut.
Ciao.